Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir élargir sa vision sur soi et sur le monde à travers un partage d'expériences. Dans mes différentes pérégrinations, j'aime bien donner la parole à des voyageurs, des reporters, des photographes, des écrivains. Et toi, je crois que tu es un petit peu tout à la fois. Tu es intervenu hier soir lors d'une projection au Grand Bivouac. Je sais très peu de choses sur toi, mais j'ai quand même retenu une chose. Comment on fait pour voyager quand on est petite, blonde et une femme? Je trouvais ça assez interpellant, assez amusant. Donc on parlera de cet aspect-là, hein, voyager en tant que femme solo dans cette émission. On parlera aussi un petit peu de ton parcours et de ton univers. Donc Katia, dis-nous tout sur ton univers, on va peut-être commencer par le début. Donc est-ce que tu es d'origine russe? Tu es née là-bas? Tu es née ici? Quelle est ton histoire et quel est ton lien avec le voyage?
Alors j'ai un nom russe parce que j'avais un grand-père russe, mais que je n'ai pas connu, hein, donc voilà, j'ai pas plus de lien que ça avec la Russie. À part des origines d'une partie de la famille, mais j'ai gardé ce nom russe. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais le hasard a fait que c'est un pays que j'aime beaucoup, la Russie. J'ai fait 4 voyages en Russie et c'est un pays tellement vaste. Enfin voilà, j'adore la Russie. Voilà. Et donc sinon, pour me présenter un petit peu, hein, effectivement, je suis auteur. Donc j'écris des récits de voyages et également des documentaires un peu plus de vulgarisation scientifique sur les plantes. Voilà, donc j'ai un petit peu deux facettes. J'ai toujours un peu en plaisantant que j'ai une double vie, une vie où je travaille dans un jardin botanique, donc où je fais de la vulgarisation scientifique, et puis par ailleurs, je suis à temps partiel, ce qui me permet d'avoir un peu plus de temps pour voyager, pour écrire et développer mon autre passion qui est l'écriture et les voyages. Voilà, et donc effectivement, j'ai écrit d'abord quelques ouvrages pour la jeunesse, un premier roman qui se passe en Russie d'ailleurs, qui s'appelle La femme de l'ambassadeur, et un récit de voyage qui s'appelle effectivement Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse, donc des chroniques de voyage autobiographiques, un petit peu partout dans le monde, donc dans une quarantaine de pays, et écrit sur un angle un peu humoristique. Et le petit dernier donc est paru au mois de février, là, un peu avant le confinement, c'est un peu une suite si on veut, ça s'appelle Comment voyager dans le Grand Nord quand on est petite, blonde et aventureuse, et là c'est vraiment axé Laponie. Et par ailleurs, voilà, je dis un documentaire sur les plantes.
Chouette, donc là tu nous as livré beaucoup d'informations. On va prendre le temps de poser cette rencontre, mais je vais m'intéresser à toi. Tu dis je suis auteur, mais comment est-ce qu'on devient auteur? À quel moment tu as su que tu étais attiré par le voyage, que tu as voulu écrire? Comment c'est venu en toi?
Alors c'est vrai que plus petite, à l'école, j'étais meilleure en français peut-être qu'en d'autres matières, je ne sais pas, mais jamais j'aurais cru que je pourrais devenir auteur. Bon, ça me paraissait quelque chose d'assez inaccessible, les écrivains, les artistes, les comédiens, enfin voilà. Donc voilà, je ne pensais pas que je pourrais aller dans cette direction-là. J'ai fait des études scientifiques, par une passion pour la nature notamment, donc plutôt des études de biologie. Et puis je me suis rendu compte que de plus en plus, c'était beaucoup plutôt du travail en laboratoire ou quoi, et j'avais envie un peu d'autre chose. Et j'ai trouvé un peu un compromis dans ma formation avec un DESS en communication scientifique et technique, justement pour apprendre un peu à vulgariser la science. Du coup, ça a permis de faire le pont entre le côté biologie, connaissance un peu du monde, de la nature, et le côté comment diffuser ces connaissances, ces savoirs. Donc là, c'est le côté un peu plus professionnel, mais c'est comme ça que j'ai commencé à écrire dans le cadre de cette formation. On apprenait à faire des petits articles, des textes d'exposition, des choses comme ça. Et par ailleurs, j'ai tenté par hasard l'expérience de l'atelier d'écriture qui a été un peu une révélation en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec des déclencheurs, on arrivait à écrire des choses intéressantes. Et puis de ces petits ateliers, je me suis mis à écrire un peu plus, à écrire des nouvelles, à participer à des petits concours de nouvelles, et puis progressivement avoir envie d'écrire de plus en plus. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par les albums jeunesse. Il y avait toujours un peu des formations professionnelles où c'était des livres un peu pédagogiques. Et puis progressivement, je me suis mis à écrire de plus en plus, effectivement, avec ce roman. Et puis ensuite, comme l'autre passion, c'est le voyage, bah, tout naturellement, comme j'écrivais, forcément, à un moment, j'ai écrit sur le voyage.
Et cette passion du voyage, c'est quelque chose qui t'était transmis par tes ancêtres voyageurs apparemment déjà, ou comment tu en es venu à voyager? Qu'est-ce qui t'a emmené pour la première fois à te dire « Ok, je vais voir ce qui se passe au-delà de nos frontières ».
Alors, ça a toujours été là. D'où c'est venu, je ne sais pas. Mes parents ne voyageaient pas, ou peu, ou en vacances en France, mais voilà. D'ailleurs, ils m'ont jamais encouragé à voyager quand j'ai commencé à vouloir partir. « Non, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ?» Tout ça, enfin, bon, ils avaient un peu peur. Bon, voilà. Comment l'expliquer, je ne sais pas, j'ai toujours eu ça en moi, cette envie, vraiment envie de partir. Et en fait, finalement, ça s'est fait tardivement, justement, à la fin de mes études. J'ai tout fait pour faire mon stage à l'étranger, déjà, c'était une bonne occasion de partir. Donc, je suis partie au Canada, à Montréal, et à la fin, j'en ai profité pour faire une grande traversée du Canada en train, toute seule. Et ça a été aussi la révélation pour le voyage en solo, où je me suis dit, en fait, c'est génial. Partir seule, c'est souvent le meilleur moyen de ne pas le rester. Enfin, ça dépend où on part et dans quelles conditions. Mais en tout cas, j'ai adoré. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, si tu as des rêves, si tu as des... faut y aller, quoi. Faut pas attendre sur les autres pour faire ce que tu as envie, et faut se lancer. Et depuis, j'ai pas arrêté de voyager, et souvent seule. Voilà.
Mais tu voyages donc pendant tes temps de pause, tes temps de vacances, c'est ça? Où tu as cherché à développer un modèle économique autour du voyage?
Alors, je voyage effectivement sur mes congés. Et j'ai pris une année sabbatique, donc pour avoir un an vraiment pour partir longtemps, beaucoup plus longtemps. Et depuis, je me suis aussi mis à temps partiel, justement pour avoir le temps de combiner un peu les deux activités, le côté botanique et puis le côté voyage et découverte et partage de ces voyages, effectivement par les livres, mais aussi par des rencontres, des festivals, des conférences, enfin des moments d'échange et de partage avec le public. Donc effectivement, je concilie à peu près les deux pour l'instant. Donc les journées sont bien remplies.
Cette année sabbatique, comment tu l'as construite et quel a été ton itinéraire? Et tu es partie seule?
Alors je suis partie seule. J'avais un grand rêve, justement, depuis cette virée au Canada, là, en train. C'était le Transsibérien, hein, évidemment, un voyage un peu mythique. Ça a été un peu la première étape de ce voyage. C'était l'envie de départ, c'était traverser la Sibérie en train. Donc, je suis partie sur 3 mois et demi, d'abord, cette première étape de l'année. Donc, un mois en Russie, une partie ensuite en Mongolie, et puis ensuite la Chine, et toute la traversée de la Chine, encore en train, ce qui a été assez sportif. Et puis, ensuite, j'ai continué en Asie du Sud-Est. Je reste un petit peu au Vietnam, où là j'ai enseigné le français dans un centre culturel à Saigon, ce qui a permis aussi de se poser un peu dans un endroit un peu différent et puis d'y passer un peu de temps. Il y a toujours ce paradoxe du voyageur, on a envie d'avancer, de découvrir des nouveaux endroits, et puis des fois on a envie de s'arrêter un petit peu, et quand on s'arrête un peu trop longtemps, on a envie de repartir. C'est un peu toujours un peu paradoxal, hein, l'envie d'aller toujours dans des nouveaux endroits et l'envie de parfois de retourner dans des endroits qu'on a aimés. voilà.
Sur le Transsibérien, tu es parti de Moscou, vraiment tu as pris le train à partir d'ici pour aller jusqu'à Moscou, et ensuite de Moscou sur la voie du Transsibérien jusqu'à, tu dis en Chine, donc tu es rentré en Mongolie, tu t'es arrêté au Langbator, j'imagine, avant de continuer sur Beijing. Donc quand on parle de Transsibérien, souvent on a l'impression que c'est un train, mais c'est plutôt une voie sur laquelle circulent de nombreux trains. Et c'est un voyage en soi, finalement. Juste être dans le train pendant plus d'une centaine d'heures, je pense, ou 150, je ne sais plus exactement.
Oui, effectivement. Alors, j'ai un peu triché. Effectivement, j'ai pris l'avion jusqu'à Moscou. Et de là, il y a deux variantes, hein, sur l'itinéraire. Soit on peut aller jusqu'à Pékin, soit on va à Pékin, soit à Vladivostok. Et donc, j'ai choisi la variante pour aller en Mongolie et en Chine ensuite, donc jusqu'à Pékin. Et effectivement, on simplifie toujours, on dit c'est le Transsibérien, mais effectivement, ce n'est pas un train, hein, c'est le nom de la voie ferrée. Et il y a plein de trains différents qui circulent. Donc, soit on peut monter dans un train qui va tout droit et on descend pas, ou soit j'ai choisi moi de faire des escales dans différentes villes le long du parcours, autour du lac Baïkal notamment, qui est un endroit assez incroyable. Donc après voilà, c'était un choix, puis ça permettait de s'adapter, de s'arrêter quelque part, de dire bon c'est bien, je reste 2-3 jours, est-ce que j'ai envie de rester plus longtemps, je repars. Et puis effectivement c'est un voyage assez extraordinaire, parce que ce qui est intéressant c'est le train lui-même et toute l'ambiance qu'il y a dans ce train, puisqu'on a du temps. Donc on a le temps de sympathiser avec ses coéquipiers, comme on les appelait, les co-voyageurs. Donc c'était assez extraordinaire. Alors j'ai voyagé uniquement en troisième classe, hein, ce qui a plusieurs avantages. Hein. Bon, c'est moins cher. Et puis pour une femme seule, c'est aussi assez rassurant parce que c'est des compartiments entièrement ouverts. Par exemple, en première classe, c'est des couchettes de 2, en deuxième classe, des couchettes de 4. Donc si on se retrouve avec 3 Russes pompettes, ce qui n'est pas du tout rare en Russie, hein, ça fait cliché, mais c'est une vraie réalité. Finalement, la troisième classe, on est plus en sécurité puisqu'il y a toujours du passage. Et en même temps, il y a eu vraiment une ambiance dans le wagon puisque les gens passent énormément de temps ensemble, tout le monde se connaît. C'est assez, assez sympathique. Puis j'étais la seule étrangère du wagon aussi, donc à chaque fois, j'étais un peu la star. Donc c'était assez amusant. Les gens m'apportaient toujours de la vodka, du chocolat, des gâteaux, venaient discuter. Enfin, c'était vraiment très, très sympa. Ouais.
Pourquoi avoir fait le choix de partir seul? Et qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes celles qui ont envie de se lancer et qui hésitent? Parce que justement, on est petite, blonde et qu'on a peut-être un peu peur. Quels sont les conseils que tu donnerais à une femme qui veut se lancer dans l'aventure?
De se lancer, justement. C'est vai que mon bouquin est un peu trompeur, dans le sens où c'est comment voyager seul. Mais en fait, je ne donne pas de mode d'emploi. C'est du bon sens, avant tout. Effectivement, c'est comme ici. Je ne vais pas aller me promener à 3h du mat dans une rue sombre dans ma ville, parce que dans des quartiers que je ne connais pas. À l'étranger, ça va être la même chose. Hein. On va faire un petit peu attention à quelle heure on arrive, où on va. Mais globalement, ce n'est pas plus dangereux ailleurs qu'ici. Et je crois vraiment qu'il faut se lancer. Hein. Effectivement, on a parfois le cliché de l'aventurier grand, baraqué, costaud, mais en fait, le voyage aujourd'hui est plus simple qu'à une certaine époque. Hein. On avait un débat hier soir effectivement sur l'aventure, hein, au 18e siècle, au 19e siècle, les gens risquaient vraiment leur vie, ils partaient dans des conditions extrêmement difficiles, il n'y avait pas de moyens de communication, il y avait des maladies, il y avait des zones de conflit, on pouvait se faire attaquer n'importe où. Maintenant, évidemment, on voyage de manière plus simple. Mais c'est pas pour ça, je crois pas que ça ait tué le voyage non plus, hein. On peut partir, il y a encore des endroits à découvrir et puis finalement chacun a sa vision personnelle du voyage. J'entends parfois des gens qui disent « Oh, voyager, c'est plus intéressant, on voit tout dans les reportages ». On apprend des choses parfois intéressantes dans les reportages, mais rien ne remplace le vécu et l'expérience. Il y a des livres, il y a des films, il y a de la radio, il y a plein de moyens intéressants de découvrir le monde, mais rien remplace le vécu et l'expérience.
Et quelque part, le voyage fait partie du rêve de l'humanité. De tout temps, l'homme a voulu voir ce qui se passait derrière le clocher, derrière son village, derrière la vallée d'à côté, le pays d'à côté. Donc je pense que le voyage continuera, même si aujourd'hui on parle beaucoup de l'impact du déplacement des populations. Mais qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta vision, toi, du voyage dans les années à venir?
C'est vrai qu'on peut avoir une réflexion sur la façon de voyager. Effectivement, on connaît les excès du tourisme de masse et tous les dégâts que ça peut faire dans certains pays, que ce soit au niveau des populations qu'au niveau de l'environnement. Hein. On imagine certains coins avec des bars d'hôtels qui détruisent les rivages. Donc ça, c'est des choses qu'on observe sur la Côte d'Azur, mais partout dans le monde. Donc effectivement, on peut se poser des questions sur la façon dont on voyage. Effectivement, peut-être voyager un peu plus longtemps plutôt que prendre l'avion tous les mois pour aller en week-end à droite à gauche. Il y a peut-être des façons de voyager effectivement qui sont plus respectueuses de l'environnement et des hommes. Je ne suis pas du tout pour se fermer, au contraire, ça serait un petit peu dommage. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de se recentrer sur notre environnement proche. C'est vrai que c'est important aussi, hein, des gens qui vont au bout du monde, mais qui ne savent pas ce qu'il y a à 10 km de chez eux. Donc effectivement, on peut s'interroger là-dessus. Mais par contre, non, j'espère que on pourra continuer à bouger, aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est quand même une richesse, une ouverture. Ça évite un peu le repli sur soi et... C'est enrichissant et c'est important pour tout le monde de continuer à se rencontrer et à échanger.
Sinon, disque n'est pas un peu de temps.
Qu'est-ce que c'est que pour toi le voyage? Qu'est-ce que ça apporte? Comment tu définirais le voyage? Est-ce qu'il t'a apporté dans ta vie, dans ton parcours?
Alors c'est une bonne question qui n'est pas facile en fait. Hein. Qu'est-ce qu'un voyage en fait? Il y a 1000 réponses possibles. Il y a des réponses purement personnelles finalement. C'est une envie personnelle, comme d'autres ont envie, s'intéressent à d'autres choses. Hein. D'autres sont passionnés par la musique, par je ne sais quoi. Enfin chacun son truc. Moi c'est le voyage. Effectivement c'est toujours cette envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Cette curiosité du monde, c'est effectivement, moi je pose la question en sens inverse, hein, pourquoi vous voyagez? Et je dis, mais pourquoi vous voyagez pas, vous? Pourquoi vous n'avez pas cette curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Donc effectivement, c'est une curiosité qu'on a toujours envie d'assouvir et qui est interminable. Donc effectivement, c'est un vrai moteur dans l'existence, d'avoir des projets, d'avoir toujours envie de connaître un peu le monde, finalement, qu'on connaît très mal. Hein. Effectivement, des fois, on a l'impression que maintenant, on sait tout avec les médias, on sait en temps réel qu'est-ce qui se passe à telle heure, à tel endroit, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Mais en fait, c'est pas si simple, en fait. Et il y a encore... Il y a encore plein de choses à découvrir.
Est-ce que c'est pas aussi s'extraire de sa zone de confort et se sentir vivant?
Exactement. Hein. Alors après, c'est aussi une façon de vivre. Hein. Il y a des gens qui ont besoin d'être toujours rassurés, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a parfois besoin de se sentir bien là où l'on est. Et en même temps, c'est vrai que c'est important aussi de se dépasser un petit peu, d'aller un peu au-delà de soi-même pour vivre un peu plus intensément aussi. Hein. C'est vrai qu'on on est dans le monde occidental, on a quand même un certain confort. On mange à notre faim, on a un salon avec un canapé, une télé. Enfin, on pourrait très bien être paisible chez soi sans prendre énormément de risques dans la vie. Et c'est un peu vivre un peu avec trop de mollesse. Et c'est quand même intéressant de se bouger un peu et d'aller un petit peu au-delà de soi-même. Quoi.
Est-ce que ça peut pas devenir un piège après quand on a goûté justement à cette énergie de l'ailleurs? On parlait avant de curiosité, c'est vrai, on retrouve un peu cet enfant intérieur qui a tout à réapprendre, une langue, une culture, des couleurs, des saveurs, et un voyage en appelle un autre et un autre et un autre. Est-ce que ça s'arrête un jour?
Ça pourrait ne jamais s'arrêter. C'est vrai, ça pourrait ne jamais s'arrêter. Mais bon, peut-être avec le temps, est-ce qu'on voyage un peu autrement? C'est possible aussi. Hein. C'est vrai qu'on a envie parfois de peut-être mieux connaître des régions. C'est vrai qu'au départ, quand on commence à voyager, le monde paraît tellement grand, tout paraît incroyable, le moindre voyage est extraordinaire. Maintenant, sans se lasser, mais c'est vrai qu'on... Qu'on a envie peut-être d'approfondir le voyage un peu plus. C'est possible, par exemple, la Laponie. C'est vrai que je suis allée 4 fois en Laponie, alors que, voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, l'envie d'aller voir ailleurs et l'envie de retourner pour mieux connaître quand même certains coins. Quoi. Donc peut-être qu'avec le temps, on prend peut-être un peu plus le temps aussi. Ouais.
Tu as quel âge?
Alors, je suis née en 75.
Et tu as commencé à voyager en?
Et en 95, on va dire. À peu près à 20 ans, 20 et quelques. Quoi. Les premiers, c'était des petits voyages. Et puis après. Mais en fait, c'est vraiment quand j'ai fini mes études que j'ai eu la possibilité de me lancer. Avant, c'est vrai que ça ne me paraissait pas accessible. Hein. C'est pour ça que j'encourage aussi maintenant les jeunes, qu'il y en a de plus en plus, à partir comme ça, à se lancer. Parce qu'effectivement, moi, je n'étais pas forcément dans un univers familial où on m'encourageait à partir. Alors qu'en fait, y a de plus en plus de gens qui partent, maintenant même avec les étudiants, avec Erasmus, des choses comme ça, on peut partir plus facilement à l'étranger. Donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu ambigu. Hein. Pour certains, je suis toujours la grande aventurière qui part seule au bout du monde et tout. Puis en fait, quand on voyage un peu, on se rend compte qu'il y a plein d'autres femmes qui partent seules et... Ça se passe généralement bien.
Oui, et puis c'est souvent ça, c'est dès qu'on se met en chemin qu'on se rend compte de nombre de voyageurs autour de nous, que ce soit en vélo, à pied, enfin voilà, le monde voyage, hein, les gens sont absolument partout sur la planète, en tout cas dans beaucoup d'endroits. Toi, quand tu pars, donc tu pars et tu écris, tu pars pour écrire, quelle est la place de l'écriture dans tes voyages? Est-ce que tu pars pour écrire sur un projet particulier ou c'est vraiment tu écris sur ce que tu ressens et sur ce que tu vis? Parle-moi un peu du lien entre ta manière d'écrire et ce que tu vis.
Alors au départ c'est le voyage et après est-ce qu'il y a matière ou pas à écrire? Effectivement on peut avoir des idées sur un voyage, se dire ça va être passionnant, puis au retour se dire c'était sympa, c'était intéressant, mais est-ce que j'ai vraiment quelque chose à raconter? Donc effectivement tout voyage n'entraîne pas forcément un écrit intéressant. Donc effectivement là dans le premier sur forme de chronique, finalement c'est dans un petit livre un ensemble de chroniques de voyage un peu partout dans le monde, mais vraiment avec un choix finalement des anecdotes les plus croustillantes, on va dire, parce que finalement tout n'est pas intéressant et ça dépend comment on va le dire, quoi. Après la Laponie, je m'étais dit en partant, comme j'ai fait plusieurs voyages, là il y aura peut-être un livre, ça serait bien. Et en même temps, c'était pas sûr. Il fallait que le voyage soit suffisamment intéressant pour avoir quelque chose à raconter. Des fois, on peut partir avec des grandes idées et puis se dire bon bah finalement voilà. Donc le lien n'est pas si évident. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui partent uniquement pour écrire. Je préfère voyager et si c'est possible, s'il y a des choses intéressantes à dire, écrire par la suite. Ouais.
Et mais tu lis aussi un petit peu ton mode de vie professionnel et ta vie personnelle à travers le voyage, hein, parce que tu disais que tu étais dans la BOTA. Donc j'imagine que dans certains voyages, tu l'orientes aussi en fonction de tes compétences professionnelles.
Oui, alors après, donc je suis pas botaniste de terrain, hein, donc je vais pas moi-même participer à des expéditions botaniques. Donc par contre, effectivement, je vais écrire des documentaires sur les plantes, des choses comme ça. Mais je peux pas m'empêcher, effectivement, quand je vais quelque part, de m'intéresser aux plantes. S'il y a des jardins botaniques, je vais aller les visiter. Par exemple, dans mon bouquin sur le Grand Nord, je parle à un moment, j'ai un chapitre, c'est comment voir des palmiers dans le Grand Nord, quelque chose du genre, parce qu'il y a en Russie, au nord du cercle polaire, un grand jardin botanique dans la péninsule de Kola. C'est complètement improbable, c'est vraiment au fin fond du Grand Nord, dans une petite ville où il n'y a pas tellement de monde, et il y a un très grand jardin botanique avec des serres tropicales, des palmiers, des cactus, enfin c'est assez improbable. Donc je trouvais ça à la fois insolite et amusant, et en même temps intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font en matière de botanique dans ces régions-là. Et puis je vais effectivement essayer d'en profiter s'il y a des espèces remarquables. Par exemple, dans mon livre sur les plantes voyageuses, je parle de la Rafflesia, c'est la plus grosse fleur du monde, c'est un truc absolument incroyable. Et voilà, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire dans ma vie un jour, voir pour de vrai sur le terrain la Rafflesia. C'est une plante assez incroyable, qui est incultivable. Il y a eu des essais dans des jardins botaniques, mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est une plante parasite qui vit sur une liane. C'est vraiment une curiosité, ça n'a pas de tige, pas de feuilles, pas de racines, donc c'est pas capable de faire de la photosynthèse. Enfin, c'est vraiment une étrangeté, c'est énorme, elle fait 1 mètre de diamètre. Et par contre, c'est vraiment une rareté. Malheureusement, donc là faut partir avec un guide ou quelqu'un qui connaît pour aller observer la plante, parce que sinon on n'en croise pas comme ça au bord des chemins. Donc là, dans ces voyages en Asie du Sud-Est, j'avais forcément envie d'aller découvrir certaines plantes, observer certaines plantes qui sont assez fascinantes, parce que dans les régions tropicales, il y a une flore absolument incroyable et on a forcément envie d'aller découvrir ça aussi, quoi.
C'est chouette d'avoir un but aussi dans le voyage, hein, parce qu'on peut effectivement partir en année sabbatique, mais à un moment donné, on peut aussi avoir l'impression de tourner en rond quand on se met sur la route trop longtemps et donner un sens à son voyage. Tu parlais d'enseigner le français comme tu l'as fait au Vietnam, ou aller découvrir des espèces botaniques. Je pense que ça peut être aussi assez intéressant de trouver une direction dans les voyages qu'on va créer, qu'on va faire.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un projet. Après, effectivement, il y a plein de façons de voyager, hein. Soit on peut partir et on se laisse aller. C'est vraiment le voyage pour voyager. On s'arrête à un endroit qui plaît, on continue si on a envie de bouger. Mais c'est vrai qu'après un moment, on a quand même envie de peut-être faire quelque chose d'un peu plus consistant. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte sur cette année sabbatique. Au début, j'avais vraiment ce grand projet d'itinéraire, donc je suis partie comme ça 3 mois et demi. Et après, à un moment, j'ai eu envie de faire quelque chose de concret. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée un peu au Vietnam. Mais des fois, je cherche aussi des idées concrètes avant de partir. Par exemple, une année j'étais partie au Panama, je parlais pas espagnol. La première chose que j'ai fait, c'est un stage d'espagnol. Et finalement, la langue, c'est une bonne entrée en matière dans un pays. Donc finalement, plutôt que commencer à faire du tourisme, aller me balader à droite à gauche, je me suis dit, la première chose que je vais faire, c'est apprendre une langue, ce qui permet aussi de rencontrer des gens, d'autres apprenants qui viennent apprendre la même langue, les enseignants qui sont là aussi, qui sont des locaux qui ont aussi des choses à partager. Donc finalement, c'est une occasion de faire des choses concrètes. Pareil en Russie. La première fois que je suis allée en Russie, j'ai fait un stage de russe à Saint-Pétersbourg. Je me suis retrouvée logée dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. C'était horrible. Donc j'ai des chapitres aussi là-dessus dans mon bouquin, parce que c'était assez intéressant finalement. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu pour un voyage qui pouvait être a priori relativement classique. C'était plutôt intéressant quand même de se retrouver dans une banlieue qui donnait une image mais complètement différente de ce qu'on a sur Saint-Pétersbourg, une des plus belles villes du monde, tout ça. Enfin bon. Donc voilà, la langue, c'est intéressant. Ou des fois des projets de volontariat, par exemple en Mongolie. J'avais participé à un projet d'éco-volontariat sur la réintroduction des chevaux de Prevalsky, donc les derniers chevaux sauvages qui avaient disparu et qui avaient été quand même conservés dans des zoos et qui ont été à un moment donné réintroduits en Mongolie. Donc, j'étais envoyée dans la steppe observer les traces des chevaux, par où ils passaient, ce qu'ils faisaient, tout ça. Enfin bon, donc c'était aussi un moyen de faire quelque chose de concret et d'utile pendant le voyage.
Tu disais aussi, tu l'as un peu abordé, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, c'est vrai que le voyage ça fait rêver, mais c'est pas toujours idyllique. Hein. Des fois on vit des moments de grande solitude ou de grande remise en question et on se demande mais pourquoi je me suis mis dans cette situation ?
Ouais, bah ça c'est intéressant aussi, puisqu'effectivement, enfin, pour moi le voyage c'est pas juste aller dans les endroits les plus beaux qu'on nous décrit dans les guides de voyage. C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, t'as fait un beau voyage, mais c'est quoi un beau voyage ? Ça c'est une grande question. Certes on peut voir des très belles choses, des beaux monuments, des beaux paysages, des belles personnes, mais on voit aussi des choses parfois très difficiles. Vous allez en Inde, bon bah c'est un pays magnifique et en même temps absolument horrible, on voit des gens qui crèvent dans la rue, enfin... Voilà, donc effectivement, si on ne veut pas être confronté à des situations comme ça, bon, on peut rester chez soi, certes, mais le voyage, pour moi, c'est découvrir le monde tel qu'il est, avec ses beaux côtés et ses moins beaux côtés, sans aller dans des situations extrêmes ou dangereuses. Après, ça, c'est le travail d'un journaliste ou d'un grand reporter d'aller témoigner de zones de conflit, de choses comme ça. Après, en tant que voyageuse, je ne vais pas là-dedans, mais par contre, j'hésite pas à aller dans des endroits qui, a priori, ne font pas rêver, mais qui sont tout aussi intéressants. Par exemple sur la Russie là, je suis allée dans le Grand Nord, dans la péninsule de Kola, donc en arrivant à la ville de Mourmansk, donc c'est une des plus grandes villes au nord du cercle polaire, donc c'est que des barres d'immeubles, hein, c'est vraiment la ville soviétique, en plus là, c'est extrêmement pollué, c'est un peu le cimetière nucléaire des sous-marins russes, donc voilà, il y a un taux de réactivité sympathique, hein. Je me suis dit je vais revenir toute verte avec trois oreilles et quatre yeux, donc effectivement dit comme ça, ça fait pas du tout rêver, hein, c'est... Bon, je pense que personne aurait envie d'aller passer ses vacances là-bas. Et pourtant, j'en garde un très très bon souvenir. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai rencontré des gens vraiment charmants en faisant du couchsurfing, par exemple, en allant dormir chez les gens, en allant visiter ce jardin botanique improbable dans le nord. Enfin, y a des paysages assez austères, un peu lugubres et en même temps assez grandioses. Voilà, donc c'est vraiment des endroits très peu connus, assez étonnants. Et finalement, j'ai fait un voyage aussi beau, entre guillemets, que dans d'autres coins où effectivement ça paraît un peu plus attractif au premier abord.
Et souvent il y a aussi cette notion de la rencontre qui va rendre un voyage beau, hein. On a beau s'émerveiller devant un paysage, mais ce qui va souvent rester dans la durée, c'est les échanges qu'on a pu avoir ou les personnes qu'on a pu rencontrer.
Voilà, effectivement, c'est ça un peu qui fait le voyage, c'est les rencontres, bon, qui sont souvent brèves, hein, donc il y a aussi un côté frustrant parce qu'on rencontre plein de gens. Parfois avec certaines personnes, on se dit qu'on va garder contact, donc on garde contact un certain temps, puis le temps passe, et puis bon, bah, si 4 ans, 5 ans après, on ne s'est pas revu, bah, des fois on se perd de vue, hein, ça c'est souvent. Mais il y a des beaux moments d'échanges simples en fait. Et, par exemple, là en Laponie, donc j'étais allée en Norvège, dans la petite ville d'Alta. Bon, j'avais fait une petite escale là au nord du cercle polaire. Et puis simplement une nuit en chambre d'hôte. Donc bon, rien de très original jusque-là. Et en fait, je suis tombée sur un petit monsieur, mais qui était super sympa, d'origine Sami, mais bon, qui pratiquait plus tellement sa culture. Par contre, il faisait de l'accordéon. Donc en arrivant, il m'a fait son petit concert d'accordéon. parce que voilà, il voyait que je voyageais seule. Du coup, il m'a un peu chouchoutée. Il m'a cuisiné un petit ragoût de renne pour le dîner. Enfin, il était adorable. On a eu des grandes discussions. C'était vraiment une très très belle rencontre, très simple finalement, et enfin pas vraiment prévu quoi, hein, parce que j'avais simplement réservé une chambre comme ça. Voilà, il aurait pu ne rien se passer, dire voilà les clés. Et voilà, et en fait, c'était des beaux moments. Ouais.
Voyager seul, c'est vrai que ça interpelle. Je pense à cette phrase "Happiness is real if shared", le bonheur est réel si partagé, qu'on voit dans le film Into the Wild. Alors il y a une double vision du voyage seul. Il y a effectivement celle de on n'est jamais seul parce qu'on fait plein de rencontres, mais finalement ça reste des rencontres éphémères, et le fait de voyager à deux, ça permet de vivre ces rencontres, peut-être moins, mais au moins d'imprimer quelque chose de commun avec quelqu'un dans la durée.
Oui, alors ces deux approches du voyage, hein, effectivement, quand on part avec quelqu'un ou en famille, ou voilà, effectivement, c'est pas exactement la même démarche. Après, effectivement, à chaque fois que je suis partie avec des gens, forcément, on part avec des gens, c'est pour être avec eux au départ, hein, sinon c'est pas peine de partir ensemble. Du coup, on est quand même assez un peu, j'irais pas centré sur nous-mêmes, mais un petit peu quand même, puisque forcément, on est avec les gens avec lesquels on est parti. Alors que seul. On est vraiment seul. Donc là, si on veut rencontrer des gens, on n'a pas le choix que d'aller vers les autres. Et peut-être que les autres viennent aussi vers vous si vous êtes tout seul. Effectivement, en tant que femme seule, petite et blonde, les gens me disent effectivement oh, « et t'as pas peur ?» Ça, c'est la question qui revient à chaque fois. « Et vous avez pas peur ?» Et en fait, c'est souvent le contraire. Le fait de voir quelqu'un de seul, un peu perdu, bah, les gens, naturellement, vont venir aider. Alors que si vous êtes en groupe, ils vont dire « bon, bah, ils se débrouillent ». Voilà. Et donc, du coup, il y a peut-être aussi des échanges qui se font plus facilement parce qu'on est seul. Et puis sur la question du partage, bah, ça fait partie des choses qui se passent aussi après. Écrire des livres, c'est un moyen de finalement de raconter, de témoigner et de partager aussi ce qu'on a vécu avec d'autres gens. Venir au Grand Bivouac, c'est un moment d'échange, de partage avec les gens. Donc, il y a d'autres façons que de partager que le moment, qu'être au moment T avec quelqu'un.
Katia, merci à toi.
Merci, bonne journée.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.